Le 4 mars 1966. Aphorisme 115.
Le monde est une fraction périodique qui se répète indéfiniment avec le Brahman pour nombre entier. La période semble commencer et finir, mais la fraction est éternelle. Elle n'aura jamais de fin et n'a jamais eu vraiment de commencement.
C'est encore la même chose. Ben, cette fois-ci. La semaine dernière, il y a eu tout un développement de ça. Au fond, c'est la même chose pour les mondes que pour les individus, et pour les univers que pour les mondes. C'est-à-dire que c'est seulement la durée qui diffère. Un individu, c'est tout petit. Un monde, c'est un peu plus grand, et un univers, c'est encore un peu plus grand. Mais ça a toujours un. Ce qui commence finit. Je crois que je t'avais dit que Théon disait que c'est la septième création universelle. J'espère qu'il y a eu six pralayas avant et que c'est la septième création. Mais que l'idée est que celle-ci ne... Celle-ci pourra se transformer sans se résorber. Ce qui n'a évidemment aucune espèce d'importance. Parce que dès qu'on a la conscience éternelle, ça peut être comme ceci, ça peut être comme cela, ça n'a aucune importance. Tu comprends? C'est pour la conscience humaine limitée qu'il y a cette, comment on l'appelle, espèce d'ambition ou de besoin de quelque chose qui ne finit pas. Parce que il y a au-dedans ce qu'on pourrait appeler le souvenir de l'éternité. Et ce souvenir de l'éternité aspire à ce que la manifestation participe à cette éternité. Mais si ce sens d'éternité est actif et présent, on ne se lamente pas parce que on rejette un habit qui est abîmé, n'est-ce pas? On peut être attaché, mais on ne se lamente pas. C'est la même chose. Si un univers disparaît, ça veut dire qu'il a rempli sa fonction pleinement, qu'il est arrivé au bout de ses possibilités, et qu'un autre doit le remplacer. J'ai suivi la courbe de quand on est tout petit dans la conscience et dans le développement, on sent un grand besoin à ce que la terre ne disparaisse pas, qu'elle se perpétue en se transformant tant qu'on veut, mais que ce soit toujours la terre qui se perpétue. Un peu plus tard, quand on est un peu plus mûr, on y attache beaucoup moins d'importance. Et quand on a une constante communion avec le sens de l'éternité, ça ne devient plus qu'une question de foi. Ce n'est plus un besoin, parce que c'est quelque chose qui n'affecte pas la conscience active. Il y a quelques jours, je ne sais plus quand, mais tout dernièrement, pendant toute une matinée, ça a été là, cette conscience. Et j'ai vu, dans la courbe du développement de l'être, cette espèce de besoin qui paraît un besoin intime de la prolongation de la vie de la terre, la prolongation indéfinie de la vie de la terre, il s'objective, pour ainsi dire. Il n'est plus si intime, il est comme lorsqu'on regarde un spectacle et qu'on juge si ça doit être comme ceci ou si ça doit être comme cela. C'était intéressant comme expérience du changement de point de vue. Comme un artiste, n'est-ce pas? Mais un artiste qui se façonnerait lui-même et qui ferait un essai, deux essais, trois essais, autant d'essais qu'il faut, et puis arriverait à quelque chose qui serait assez complet en soi, et assez réceptif pour pouvoir s'adapter à de nouvelles manifestations, aux besoins de nouvelles manifestations, de telle sorte qu'il ne serait pas nécessaire de tout rentrer pour tout remélanger et tout ressortir. Mais ça n'est plus que ça. Et comme je dis, une question de choix. N'est-ce pas, la manifestation, c'est pour la joie de l'objectivation. La joie ou l'intérêt, enfin. Et quand ce qui a été façonné est assez plastique, assez réceptif, assez souple et assez vaste pour pouvoir constamment être moulé par les nouvelles forces qui se manifestent, alors il n'y a plus besoin de tout défaire pour tout refaire. C'était, ça se présentait aussi avec ce qu'on appelait un adage. Ce qui commence doit finir. Ça paraît être une de ces constructions mentales humaines qui ne sont pas nécessairement vraies. Mais subjectivement, ce qui est intéressant, c'est que le problème perd de son acuité à mesure que on le regarde de plus haut ou d'un point plus central, pour dire la vérité. Ça paraît être c'est pas un principe, mais la même loi pour l'individu, pour le monde et pour les univers. Dès qu'on essaye d'exprimer c'est ce phénomène cette expérience de la relation avec la conscience et le tout. Cette relation de l'être humain avec le tout, de la terre, la conscience de la terre avec le tout, la conscience de l'univers manifesté avec le tout, et de la conscience qui préside aux univers, à tous les univers, avec tout. Et ce phénomène inexprimable de chaque point de conscience. Un point qui n'occupe pas d'espace, n'est-ce pas? Chaque point de conscience qui est capable de toutes les expériences. C'est très difficile à dire. On pourrait dire comme ça. Que c'est seulement les limites qui font les différences. Les différences de temps, les différences d'espace, les différences de grandeur, les différences de puissance, c'est seulement les limites. Et du moment que la conscience sort des limites, sur n'importe quel point de la manifestation, et quelle que soit la dimension de cette manifestation, absolument sans importance. Sur n'importe quel point de la manifestation, si on sort des limites, c'est la conscience. Juste ce temps. Donc, n'est-ce pas, on pourrait dire que c'est l'acceptation des limites qui a permis la manifestation. Ou bien que la possibilité de la manifestation est venue avec l'acceptation du sens de la limite. C'est impossible à dire. Dès qu'on se met à parler, on a l'impression qu'il crucifie comme ça. Alors, il suffit que ça fasse comme ça, une sorte de bascule. L'essentiel s'en va. Alors, le sens métaphysique, n'est-ce pas bien? Il dit, on pourrait dire comme ça. pas faire des phrases. Tout point. Tout point contient la conscience de l'infini et de l'éternité. Ce sont des mots, rien que des mots. Mais la possibilité de l'expérience est là. Il y a une sorte de... Chose qui est un recul en dehors de l'espace. On pourrait s'amuser à dire que même la pierre, même l'eau, certainement, le feu, certainement, a le pouvoir de la conscience. Conscience. La conscience, n'est-ce pas? La conscience. Tous les mots qui viennent sont idiots. Originel, essentiel, primordial, tout ça, ça ne veut rien dire. C'est... n'est-ce pas? Éternel, infini, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça fait l'effet de poussière qu'on jette sur un verre pour l'empêcher d'être transparent. Enfin, résultat, c'est que après avoir vécu cette expérience-là, je l'ai eu aussi, d'une façon répétée pendant, je pense que ça restait là comme ça, en dépit de tout, enfin, ça présidait à tout. Tout attachement à n'importe quelle formule. Même celles qui ont remué les peuples pour des âges. Ça paraît un enfant hier. Ils ont bien cette... Le choix, on choisit que ce soit comme ça, on choisit que ce soit comme ça, on choisit que ce soit comme ça, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Amusez-vous, mes enfants, si ça vous amuse. Mais il est certain, ça, c'est tout. Moi, c'est une constatation à l'usage froid. Il est certain que le mental humain, pour avoir l'impulsion d'agir, a besoin de se construire une demeure. Plus ou moins grande, plus ou moins complète, plus ou moins souple. Mais il a besoin d'une demeure. Ne m'en fais pas ça. Ça fausse tout. Et ce qui est étrange, extérieurement, on continue à vivre automatiquement. Selon certains modes de vie, qui n'ont même plus la vertu de vous paraître nécessaire, qui n'ont même plus la force d'être des habitudes. Et qui sont acceptés et vécus presque automatiquement avec le sens, une espèce de sentiment, de sensation, mais c'est ni sentiment ni sensation, c'est une sorte de perception très subtile que quelque chose de tellement immense que c'est indéfinissable le veut. Ni le veut ou ni le choisit, mais c'est le veut. C'est une volonté qui ne fonctionne pas comme la volonté humaine, mais qui le veut. Qui le veut ou qui le voit ou qui le décide. Et dans chaque chose, il y a cette vibration lumineuse, dorée, impérative, qui est nécessairement tout puissant. Et ça donne une noir et bas grand. Ça donne un arrière-fond. Un arrière-fond. Du bien-être parfait de la certitude. Qui se traduit un petit peu plus bas dans la conscience par un sourire bienveillant et amusé.
Moi, j'aurais envie de poser une question humaine, mais enfin une autre fois peut-être. Hein? J'aurais eu envie de te poser une question.
Pose.
Un peu plus loin, n'est-ce pas, Sri Aurobindo parle des mondes qui n'ont ni commencement ni fin. Il dit que leur création et leur destruction est un jeu de cache-cache avec notre conscience extérieure.
C'est certainement une façon très élégante de dire la même chose que ce que je viens de dire.
Non? Oui. Non mais... mais ce que je voulais demander, c'est... c'est si, de l'autre côté, le monde matériel continue à être perçu d'une façon claire, ou bien si tout ça s'évapore, autant que de ce côté-ci, l'autre monde est à l'autre monde. Le jeu est intéressant si on est conscient des deux côtés.
Ça, c'est encore une expérience. Ces jours derniers, où il est venu d'une façon certaine et absolue, quoique très difficile à exprimer, que cette prétendue erreur du monde matériel tel qu'il est, était indispensable pour ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le mode ou la manière de percevoir, de devenir conscient des choses, ce mode a été gagné par l'erreur de cette création et n'aurait pas existé sans elle. Et que ce n'est pas quelque chose qui s'évanouira dans la non-existence quand on aura la vraie conscience. C'est quelque chose qui s'ajoute d'une façon spéciale, qui a été perçu, qui a été vécu à ce moment-là dans la conscience essentielle. C'était comme une justification de la création qui a rendu un certain mode qui pourrait se traduire par les mots de précision et d'exactitude dans l'objectivation. Il n'aurait pas pu exister sans ça. Parce que au moment où cette conscience, soit la conscience parfaite, la conscience vraie, la conscience était là, présente et vécue à l'exclusion de tout autre, il y avait un quelque chose comme un mode vibratoire. Un mode vibratoire de précision et d'exactitude objective qui n'aurait pas pu exister sans cette forme de création. Il y avait eu d'abord le grand pourquoi, toujours. Le grand pourquoi comme ça. Pourquoi tout ça? C'est ça qui a eu pour résultat tout ce qui se traduit dans la conscience humaine par souffrance et la misère et impuissance et tout, n'est-ce pas, toutes les horreurs de la conscience ordinaire. Pourquoi ça? Et alors la réponse était comme ça, n'est-ce pas, dans la conscience vraie, il y avait un mode vibratoire de précision, d'exactitude, de netteté dans l'objectivation qui n'aurait pas pu exister sans ça, n'aurait pas eu de chance de se manifester. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la réponse, n'est-ce pas, toute puissante au pourquoi. Il est évident, n'est-ce pas, évident. Que ce qui se traduit pour nous par le progrès, n'est-ce pas, une manifestation progressive, est n'est pas seulement une loi de la manifestation matérielle telle que nous la connaissons, que c'est c'est le principe même de la manifestation éternelle. Si on veut redescendre au niveau de la pensée, n'est-ce pas, de la pensée terrestre, on peut dire qu'il n'y a pas de manifestation sans progrès. Ce que nous appelons progrès, n'est-ce pas? Ce qui pour notre conscience est progrès. Là, c'est... Ça peut être n'importe quoi, tout ce que l'on veut, nécessité, Il y a une sorte d'absolu que nous ne comprenons pas. L'absolu, un absolu d'être. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Voilà. Mais pour notre conscience, c'est... C'est de plus en plus, de mieux en mieux, de, n'est-ce pas? Et c'est idiot. Ces mots-là sont idiots, mais... C'est de plus en plus parfait, de mieux en mieux... perçu. Le principe même de la manifestation. Et ça, c'est une expérience qui est venue d'une façon très fugitive, mais suffisamment précise pour que pour pouvoir dire, très maladroitement, que j'allais dire saveur, la saveur du non manifesté, il faudrait dire que le nom manifesté a une saveur spéciale à cause du manifesté. Tout ça, c'est des mots, mais c'est tout ce que nous possédons. Peut-être qu'un jour, on aura des mots, une langue qui pourra dire ces choses convenablement. mais ce sera toujours une traduction. Il y a là, c'est un niveau qui est comme ça, ça correspond à ça, ici, là. Il y a là quelque chose qui joue avec les mots, les images, les phrases, et qui... C'est comme ça, ça fait des jolies images. Et ça a le pouvoir de vous mettre en rapport avec la chose, peut-être plus grand, au moins aussi grand, mais peut-être plus grand que ici l'expression métaphysique. Métaphysique, une façon de faire. Des images. Et de la poésie. Il y a une approche presque plus directe à cette vibration inexprimable. Je vois toute l'expression de Shobindo dans sa forme poétique. Ça a un charme et une simplicité et une douceur, et un charme pénétrant qui vous met en rapport direct beaucoup plus intimement que tout ça. Voilà. Alors, au fond, on n'a rien fait. On a perdu tout ça. C'est vraiment intéressant que toutes ces... Je me disais ces jours-ci, pourquoi est-ce que ça vient comme ça, pourquoi est-ce que... Quelle est la loi qui préside à l'ordre de ces expériences qui viennent tout d'un coup? Je vois que ça vient du dehors, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça ne vient pas comme ça, ça vient comme ça. Et... Il y a toujours cette force dorée souriante derrière tout. Même quand ça se traduit physiquement par quelque chose qui n'est pas très agréable, ça sourit toujours, dit, alors, on ne fait pas de manière. Et alors, c'est contagieux, on sourit. C'est bien. Le corps est... N'est-ce pas? Dès qu'il y a quelque chose, une vibration à laquelle il n'est pas habitué, le premier contact est un malaise. Quand on lui dit, tiens, toi, tranquille, n'aie pas peur, tout ira bien. C'est drôle, on est des toutes petites choses. Pauvre petite chose. Mais il faut rire. Voilà mon petit. Et tu es très étroitement associé à ces choses, même dans ton corps physique. Et alors plusieurs fois ces jours-ci, j'ai eu l'occasion de te dire, tu vois, t'inquiète pas, ces choses-là, c'est vraiment des apparences que la pensée humaine cristallise et durcit, mais que si on les voit avec la fluidité de la vraie conscience, ça vient, ça va, ça passe. Et ça peut ne pas laisser de traces si nous sommes assez souples pour pouvoir nous adapter. C'est comme ça. Et tout souple et plastique pour pouvoir s'adapter à toutes ces vibrations qui entrent et dérangent le fonctionnement soi-disant naturel. C'est, n'est-ce pas, la stupidité de cette pensée, une pensée subconsciente, habituelle comme ça, quand quelque chose change, c'est ça qui gâte. Voilà.